Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans l'épisode 21 de La vie est un conte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est intitulée Le Pagne et est issue du recueil L'Alphabet de la Sagesse de Johanna Marincol et Lydia Marincol. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un grand sage. Il était satisfait des progrès de l'un de ses élèves et jugea qu'il était temps de lui faire mettre en pratique son enseignement. Le jeune disciple s'installa dans une petite hutte près de la rivière pour continuer seul son apprentissage de la sagesse et de la paix. Chaque matin, le jeune homme enlevait son pagne pour se laver dans la rivière. Ce vieux morceau de tissu qu'il nouait autour de sa taille était tout ce qu'il possédait et il y était très attaché. Un jour, en sortant de l'eau, il trouva son pagne rongé et déchiré par des rats. Il se rendit au village pour emprunter du fil et une aiguille et pouvoir ainsi le réparer. Mais le lendemain, son pagne était à nouveau tout déchiqueté. Il recueillit alors un chat errant. L'animal chassa rapidement tous les rats des environs, mais le jeune homme avait maintenant besoin de lait pour le nourrir. Demander du lait chaque jour était trop exigé des villageois. Il se rendit donc en ville pour rassembler la somme nécessaire à l'achat d'une vache. Au bout de quelque temps, il acquit enfin une vache qui lui donna suffisamment de lait pour lui et pour son chat. Mais l'animal brouta bientôt toute l'herbe aux alentours de la hutte. Le jeune homme devait maintenant se procurer du foin. « C'est simple, pensa-t-il, il me suffit pour cela de cultiver quelques parcelles de terre. » Mais bêcher la terre et arracher les mauvaises herbes lui prenait une grande partie de la journée et il n'avait plus le temps de méditer. Il engagea donc deux paysans pour s'occuper du champ à sa place. Malheureusement, les deux hommes venaient continuellement l'interrompre dans ses prières pour lui demander des instructions. Si je me marie, pensa-t-il, ma femme s'occupera de régler tous ces problèmes et je pourrai me consacrer entièrement à mes méditations. Il épousa donc une jeune fille sérieuse et travailleuse. Mais il lui fallut construire une maison, sa hutte étant bien trop petite pour deux. Pour payer la construction de la maison, il dut faire labourer plus de terre et planter plusieurs champs. Petit à petit, sans s'en rendre compte, il devint l'un des hommes les plus riches de la région. Il habitait maintenant une immense maison et des dizaines de paysans cultivaient ses terres. Mais la gestion de l'ensemble de ses biens lui prenait tout son temps. Il n'avait plus désormais une seule minute de tranquillité. Quelques années plus tard, le sage, voulant savoir ce qu'il était devenu, vint lui rendre visite. Il fut surpris de découvrir une belle demeure là où jadis se trouvait la petite hutte. Le sage s'adressa à l'un des nombreux serviteurs pour demander si quelqu'un savait ce qu'était devenu le jeune homme qui habitait là autrefois. À cet instant, il vit son ancien disciple sortir de la maison. L'air soucieux, il s'entretenait avec plusieurs de ses intendants. Il portait toujours son vieux pagne, mais il avait revêtu par-dessus une belle veste à boutons dorés. « Est-ce vous, mon fils ?» lui demanda le sage, étonné. « Qu'est-ce que tout ceci ? Que s'est-il donc passé ?»« Maître, » répondit le jeune homme un peu honteux, « je vous assure que je souhaitais seulement conserver mon pagne. » Malheureux, dit alors le sage, celui qui s'attache aux choses qu'il possède, en devient à jamais l'esclave et perd ainsi sa liberté. Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais parfois, on observe si longtemps celle qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. Hélène Keller. Le conte d'aujourd'hui parle d'attachement. De quoi s'agit-il ? Un attachement est un état émotionnel de relation parfois compulsive à une chose, une personne ou une pensée particulière, pouvant produire la croyance persistante que sans cette chose, sans cette pensée ou sans cette personne, on ne peut pas vivre. Ici, l'apprenti, sage en deux mots, est attaché à son pagne. Nous pouvons être attachés à beaucoup d'autres choses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Nous pouvons être attachés à des biens, à des lieux, à des personnes, à des plaisirs, à des valeurs, à des périodes de notre vie, à des manières de faire, à des pensées, à des croyances, à des objectifs, etc. Et ces attachements, comme son nom l'indique, restreignent notre liberté et nous font souffrir car ils font naître en nous la peur de perdre ce à quoi nous sommes attachés. Et donc nous amène à des comportements de contrôle, de lutte contre l'impermanence du monde. Nous le voyons bien dans ce conte où l'homme, pour garder son pagne intact, recueille le prédateur des rats, puis contrôle l'approvisionnement en lait, puis en herbe, puis contrôle les paysans, etc., etc. Tout se passe comme s'il était pris dans un engrenage infernal. Et il devient l'un des hommes les plus riches de la région, ce qui pose l'éternelle question de savoir, dans la possession, qui possède qui. Est-ce que je possède des biens ou est-ce que ce sont les biens qui me possèdent ? Ce conte m'a beaucoup fait penser à un livre que je lisais à mes enfants quand ils étaient petits et qui s'appelait « Nénègle, le petit aigle ». C'était l'histoire d'un petit aigle qui grimpait en haut d'une montagne, en tenant dans ses bras son beau camion rouge, sa tétine, son biberon et son doudou. Et une fois arrivé au sommet, il tombe. Et dans sa chute, il lâche son beau camion rouge, puis sa tétine, puis son biberon, puis enfin son doudou. Et là, il ouvre les ailes et s'envole vers la liberté. J'aimais énormément cette histoire si simple et si pleine de sens. Mais la question que ça amène, c'est: a-t-on besoin de chuter pour lâcher prise, pour apprendre le détachement ? A-t-on besoin de tomber malade, de se séparer de son conjoint, de perdre son emploi, etc., pour s'envoler vers la liberté ? À cette question, j'aurais envie de répondre par la négative, car je pense qu'il est possible d'être proactif, d'être acteur de sa vie et de travailler au détachement tout au long de sa vie, soi-même, sans attendre que les épreuves nous y contraignent. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui à travers un exercice. Prenons d'abord un moment pour identifier ce à quoi nous sommes attachés aujourd'hui. Quelle personne, quelle chose, quelle pensée, quel principe, quelle valeur, etc. Alors se détacher ne veut pas dire être insensible ou indifférent, mais vivre la relation en sachant qu'elle est éphémère et donc c'est au contraire la vivre plus pleinement au présent, dans l'ici et maintenant dont on a déjà parlé. Le détachement réfère à la capacité de se désengager mentalement, émotionnellement et parfois physiquement de la vie d'une autre personne, des responsabilités et des problèmes que nous ne pouvons résoudre. Aussi aujourd'hui, à partir des attachements que vous avez identifiés chez vous, je vous propose une méditation guidée sur le lâcher-prise issue du livre « Lâcher-prise » de Rosette Poletti et Barbara Dobbs. Pour faire cet exercice, vous allez avoir besoin de vous installer confortablement dans un endroit calme. Je vous invite à débrancher votre téléphone, fermer votre porte et à vous installer confortablement. Centrez-vous sur votre respiration. Prenez conscience de vos inspirations et de vos expirations. Imaginez qu'à chaque inspiration, l'oxygène que vous introduisez dans votre corps permet à chacun de vos muscles de se détendre. Continuez à être conscient de votre respiration sans l'augmenter. Jusqu'à ce que vous vous sentiez tout à fait détendu, relaxé, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Imaginez maintenant que vous vous trouvez au bord d'un grand fleuve par un beau soir d'été. Vous êtes là, assis au bord de ce fleuve, vous êtes paisible. À côté de vous, dans un grand sac de jute, vous avez mis des pierres qui représentent ce dont vous voulez lâcher prise, vos attentes, vos ressentiments, vos messages contraignants, vos désirs d'avoir raison, vos regrets à propos du passé, vos craintes à propos du futur, vos attachements négatifs ou tout autre aspect de votre vie dont vous voulez vous défaire. Alors que vous êtes là, près du fleuve, vous voyez une péniche qui s'avance doucement vers vous. Elle s'approche de la rive, près du lieu où vous vous trouvez, et s'arrête. Vous tirez alors votre sac de jute jusqu'à la péniche et vous le jetez sur le pont de cette embarcation. Puis, lentement, en prenant pleinement conscience de ce que vous faites, vous revenez vous asseoir là où vous étiez. Vous voyez la péniche qui reprend sa course, qui s'éloigne du bord du fleuve, poussée par le courant. Elle s'en va vers l'embouchure du fleuve. Vous la voyez diminuer de taille jusqu'à n'être plus qu'un petit point à l'horizon. Puis plus rien. La péniche a disparu, emportant tout ce que vous vouliez laisser partir, tout ce dont vous vouliez lâcher prise. Vous vous sentez léger, léger, libéré. Et vous vous laissez remplir de la lumière douce et bienfaisante du soleil couchant. Vous vous sentez bien. Paisible. Serein. Lorsque vous en avez envie, vous reprenez doucement conscience de votre corps assis, où il se trouve. Vous reprenez conscience de votre respiration. Et tout en bougeant vos doigts, vos orteils, vous ouvrez les yeux. Voilà, je ne vais pas faire un détour par l'entreprise aujourd'hui pour vous laisser dans les bienfaits de cette méditation guidée. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous parlerons de confiance. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt.